Wilfried Loriano-Dorego, bonjour.
Bonjour.
Le sommet Afrique-France, qui aurait dû démarrer ce jeudi, est reporté à l'année prochaine, mais sans aucune date. Est-ce à dire que c'est un enterrement de première classe et qu'en réalité, il n'y aura peut-être jamais de sommet Afrique-France sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, le sommet Afrique-France devait se tenir à Bordeaux avec pour thème ville et territoire durable, et il devait rassembler environ 15 000 personnes avec la participation du secteur privé, petites et grandes entreprises, la société civile, les élus et les politiques. Et il y a le challenge des 1 000 entreprises africaines, sélection d'entrepreneurs africains invités au sommet pour pouvoir trouver des partenaires, des clients et des financements. Évidemment, il ne m'appartient pas en tant que coordonnateur du CPA de commenter que sera le prochain sommet. Il appartient au gouvernement et voilà.
Et vous espérez qu'il ait lieu ou vous craignez qu'il n'ait plus lieu du tout ?
Écoutez, au début, il y avait une urgence sanitaire. Maintenant, l'urgence est plus économique. Et même si le sommet ne se tient pas dans sa totalité, le volet économique, je doute qu'il ne se tienne pas. Parce qu'il y a une urgence à la relance économique en Afrique.
Avec l'accueil à ce sommet de plusieurs centaines d'entreprises africaines, c'est ça ?
Par exemple, oui, absolument.
Ça, vous pensez que ça aura lieu, mais en 2021 ?
Je pense que la partie sommet économique aura forcément lieu, puisque si vous interrogez les Africains, l'urgence économique est absolument déterminante. Voilà.
En 2021, vous avez une idée de la date ?
Il m'est très difficile, moi, de donner la date. Je pense que ça appartient plus au gouvernement de se prononcer sur le timing, en fait, du sommet et son format, d'ailleurs.
Mais ce sera l'année prochaine.
Écoutez, monsieur Bouvier, je pense que, de toute façon, les conditions sanitaires sont telles qu'il est difficile d'envisager quelque chose avant la fin de l'année.
Votre conseil présidentiel pour l'Afrique s'est beaucoup investi dans la préparation de la saison culturelle Africa 2020. Elle aurait dû débuter lundi dernier. Est-ce qu'elle va commencer d'ici la fin de l'année? Avec combien d'événements prévus?
La saison devrait débuter en décembre et il y a environ 200 ou 300 projets de prévus un peu partout en France. Et l'idée, en fait, c'est de faire changer le regard que les Français ont sur l'Afrique et vice-versa, en fait. L'idée, c'est de faire de la co-construction et éviter les clichés.
Avant de parler de vos activités contre le coronavirus en Afrique, un mot sur votre action depuis 3 ans. L'action portée d'abord par Jules Armand, Agnan Bossou et aujourd'hui par vous-même. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le CPA n'est qu'une coquille vide ?
Le CPA a pour objectif principal d'éclairer le président de la République sur les enjeux de la relation entre la France et l'Afrique. Et la deuxième mission essentielle du CPA, c'est de développer un lien permanent avec la société civile, la jeunesse en particulier. En ce qui concerne l'éclairage du président de la République, le CPA a inspiré plusieurs propositions du discours de Ouaga, par exemple. Il y a eu la contribution sur la restitution des œuvres d'art, des biens culturels. Et également, le CPA a fait le plaidoyer pour que les diasporas africaines soient à l'avant-garde de la relation entre l'Afrique et la France. Ensuite, nous avons pris part, le CPA a pris part aux discussions sur l'évolution, la réforme du CFA. Et nous avons organisé des débats, nous avons senti ce qu'attendait la société civile et nous avons fait des recommandations au président de la République. Ensuite, nous avons travaillé sur les sujets de mobilité, c'est-à-dire les problématiques de visa. Nous travaillons beaucoup sur l'entrepreneuriat, aussi bien de la diaspora que de la jeunesse africaine, trouver les moyens qui leur permettent de trouver du financement. Nous réfléchissons sur la réponse économique à apporter à la crise Covid. Parce que vous savez, les Africains considèrent qu'ils ont résisté à la crise sanitaire et que ce qui est devant eux, c'est vraiment l'enjeu économique. Parce qu'au fond, c'est le secteur privé qui crée des emplois en Afrique.
Wilfried Loriano-Dorego, vous avez parlé de ce que vous avez fait pour la réforme du franc CFA en octobre de l'année dernière, c'est-à-dire 2 mois avant les annonces Ouattara-Macron à Abidjan. Vous avez organisé à Paris un colloque sur la réforme à venir du franc CFA. Est-ce à dire que vous avez poussé cette réforme et que vous avez dû vaincre certaines résistances dans l'administration française ?
Écoutez, ce que nous avons fait, c'est d'écouter ce que dit la société civile et refléter ses préoccupations de la société civile civile au président de la République. Et je pense qu'il en a tenu compte.
Vous avez dû bousculer certaines habitudes ?
Écoutez, c'est très difficile de dire bousculer, en fait.
C'est-à-dire qu'il y avait des gens dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui étaient contre la réforme et des gens comme vous qui étaient pour.
Écoutez, au fond, il y avait quatre sujets sur le CFA. Il y avait la problématique du nom, il y a la problématique de la réserve de change, il y a la problématique des administrateurs au conseil de l'UMOA, et puis il y a la parité fixe. Comme vous le savez, à Abidjan, trois de ces quatre éléments ont été réformés et il reste un quatrième qui est toujours en cours, en fait, qui est la parité fixe.
Oui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a dû arbitrer entre ceux qui étaient contre une réforme et les gens comme vous qui étaient pour.
Écoutez, j'irai pas plus au-delà, monsieur Boisbouvier, sur le sujet, mais je vous ai donné les éléments.
Alors, vous avez parlé des quatre points sensibles sur le CFA. Le quatrième, justement, c'est la parité fixe avec l'euro qui est maintenue. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est la preuve que toute cette réforme n'est qu'un changement de façade?
Écoutez, au fond, la monnaie n'est que le reflet de l'économie. Et je pense que ce qui est important, c'est les réformes de l'économie pour que l'économie soit, un, endogène, et que, deux, l'économie soit intégrée. C'est la convergence de ces économies qui fait que, finalement, chemin faisant, on peut avoir une monnaie et utiliser tous les attributs de la monnaie, en fait. Et il y a peut-être encore des choses à faire, il y a sûrement des choses à faire, mais soulignons déjà une réforme historique, et peut-être l'avenir dira ce qui reste à faire.
Depuis 3 ans, on a le sentiment que le CPA s'interdit de parler politique. Est-ce à dire que vous êtes cantonné au sujet économie, santé, culture?
Écoutez, le CPA a été constitué d'une douzaine de membres, des Africains, des Français, des Franco-Africains. Ces membres sont tous issus de la société civile, sont tous bénévoles et interpellent le président de façon indépendante. Le CPA, son rôle est de faire passer en toute indépendance des messages et des idées au président de la République, mais notre prisme est plus société civile que politique.
Alors, vous êtes une force de proposition auprès d'Emmanuel Macron et vous lui écrivez des rapports. Mais est-ce que vous le rencontrez de temps en temps?
Oui, bien sûr. La dernière fois qu'on a rencontré le président, c'était en décembre. On devrait le revoir. On a un rythme de rencontre trimestriel, mais la dernière fois qu'on l'a rencontré, c'était au mois de décembre.
Juste avant son voyage à Abidjan et son annonce conjointement avec Alassane Ouattara de la réforme du franc CFA.
Exactement, et on était d'ailleurs du voyage, en fait, à Abidjan.
D'accord. Le 15 avril dernier, sur RFI, le président français a détaillé les 4 points d'un plan ambitieux de la France pour aider l'Afrique à faire face à l'épidémie du coronavirus. Quels sont les points sur lesquels votre CPA se mobilise?
Alors, le soutien économique, en réalité, c'est donner de l'oxygène au secteur privé africain, que le secteur privé soit formel ou informel. Sur le secteur informel, le CPA est en train de réfléchir pour mobiliser les banques commerciales, pour mobiliser les acteurs de télécom, pour proposer un produit de financement de microfinance, de microcrédit digital, parce qu'il y a 70% de la population qui vit dans l'informel, et une façon de les aider, c'est de leur apporter un fonds de roulement en cette période difficile. Et on espère, on a bon espoir que ça débouche sur une solution d'ici l'été, en fait.
Ça, c'est pour l'informel. Hein.
Ça, c'est pour l'informel. Notre plaidoyer sur le secteur formel, c'est qu'il faut trouver les mécanismes pour que les banques puissent financer tous les PME. Je vous ai dit concrètement ce qu'on ferait pour l'informel. Il faudrait un plan également pour le financement du secteur formel qui passerait forcément par une action auprès des banques commerciales, en fait.
Et sur le plan sanitaire, que faites-vous?
Sur le plan sanitaire, on a mis en place une veille qui a consisté à identifier une 60aine de projets, essentiellement des projets de télémédecine qui permettent en fait de favoriser l'autodiagnostic pour éviter que les gens se précipitent dans les hôpitaux. Et donc, il y a des initiatives là-dessus. Je vais citer par exemple une initiative qui s'appelle DiagnoseMe au Burkina. C'est une application de télémédecine et de surveillance épidémiologique qui permet en fait aux utilisateurs de diagnostiquer s'ils sont contaminés ou pas, en fait. Donc, ça a été mis au point par un médecin, 2 ingénieurs et un étudiant burkinabé. C'est une application sur iPhone et sur Android qui est opérationnelle depuis le 15 mai. Le deuxième projet que je voulais mettre en lumière, c'est tout ce qui est équipement de protection pour le personnel soignant. Il y a eu une mobilisation formidable en Afrique qui a permis de produire des visières et même des respirateurs artificiels pour 60 euros. L'initiative est portée, par exemple, par Airbus Community, en association avec l'école polytechnique de Thiès. Notre rôle, nous, en tant que CPA, c'est de voir dans quelle mesure on peut trouver des financements, des fonds de roulement pour les accompagner, ces initiatives.
Oui, parce que vous-même, vous n'avez pas de budget, hein, il faut être précis.
Exactement, nous sommes bénévoles, mais on peut mobiliser les financeurs publics ou privés, d'ailleurs. Et puis, ceux qui sont vraiment porteurs d'innovation, et il y en a, notre rôle, nous, en tant que CPA, c'est de leur trouver des mécanismes de financement qui accompagnent le projet au-delà de l'urgence Covid, en fait.
Vous l'avez dit vous-même, hein, vous êtes bénévole, vous ne touchez aucun salaire pour votre activité au CPA, vous continuez votre travail de conseiller en entreprise chez KPMG, et il y a 6 mois, vous avez été élu président du conseil de surveillance de ce cabinet d'audit. Est-ce que votre arrivée à la tête du CPA il y a 1 an a aidé peut-être à cette promotion?
Vous savez, ça fait 32 ans que je suis chez KPMG, et en fait, je pense que c'est le fruit d'un parcours professionnel. Et président du conseil de surveillance chez KPMG, c'est une élection. Nous sommes 500 associés qui votent, et je pense que c'est complètement déconnecté, en fait.
Pas de conflit d'intérêts entre votre activité professionnelle dans un cabinet d'audit et votre position de conseiller du chef de l'État français.
Une des choses à laquelle je veille particulièrement, pour moi et puis pour tout le groupe, c'est justement cette notion de conflit d'intérêts. On est très exigeant là-dessus, ça fait partie de la décharge qu'on a signée, et on doit y veiller tous, et moi y compris, en fait.
Wilfried Loriano-Dorego, merci.